Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est dirigée ce soir par Charles de Meyer et préenregistrée grâce aux bons soins de Benoît. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Adrien Charles. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes l'auteur de La Révolution esthétique moderne aux éditions Ora Decima et nous allons pouvoir plonger avec vous dans des réflexions qui nous amèneront à la fois dans l'histoire des arts, mais pas seulement, dans l'histoire des idées appliquées à l'art. On verra si on peut utiliser exactement le terme esthétique dans tous ces rapports. On parlera de danse, de théâtre, d'architecture, de peinture évidemment, et principalement de musique aussi. Ouvrez donc bien les oreilles à mes auditeurs. Il va y avoir pléthore de sujets ce soir. Mais d'abord, Adrien Charles, première question pour apprendre à mieux connaître la jeunesse de cet ouvrage. Finalement, comment avez-vous commencé à réfléchir à cette question de l'esthétique moderne et comment y avez-vous travaillé?
Bien, bon, bonsoir à tous. Hein. Donc, ça fait longtemps que je réfléchis à cette question. Ça fait bien au moins 35 ans. Et c'est parce que je suis foncièrement classique jusqu'au bout des ongles que, évidemment, l'art moderne est venu à se mettre sur mon chemin. Que j'ai essayé de réfléchir, hein, bien sûr. J'ai visité tous les musées de l'art moderne que j'ai pu. J'ai visité celui de Bonn, celui de Bilbao, autant que possible, j'ai essayé de comprendre ce que ça signifiait. Et puis après, ben, j'ai pratiqué la philosophie, je suis prof de philosophie, et donc j'ai dû enseigner l'art à mes élèves, hein, en terminale. Donc il a bien fallu que j'explique les choses. Et je me suis aperçu assez vite que le fond de l'affaire n'est pas vraiment dans ce qu'on ressent, et le fond de l'affaire, il est dans la philosophie, en fait. Il est dans les arguments rationnels. Et on ne peut pas comprendre ce genre de pratique d'art si on ne revient pas aux principes. C'est-à-dire, si on n'a pas les principes, on manque la moitié du tout, comme dit Aristote. Hein. On manque la moitié du tout. Et c'est important, c'est une affaire très importante, hein, parce que l'esthétique, ça nous concerne tous. Hein. Comme dit Paul Valéry, le plus profond, c'est la peau. Le plus profond, c'est la peau. Donc, notre environnement, il est esthétique, quoi qu'on veuille, hein, et il faut bien comprendre ce que signifie cette esthétique, parce qu'on vit avec, on vit avec. Il suffit de vouloir chercher à décorer son intérieur, pour le comprendre. Hein. Donc, c'est très important comme question, et c'est une question que je n'ai jamais éludée, dans mes réflexions.
Question que vous n'éludez pas, question également qui habite le monde contemporain sous divers rapports. Est-ce que vous trouvez des résonances assez facilement quand vous expliquez ce questionnement? Est-ce que cette réflexion sur le beau, alors avec des gens qui partagent ou non votre lecture, est quelque chose qui s'aborde assez facilement, soit dans votre pratique de l'enseignement de la philosophie, soit dans des discussions avec des amateurs d'art?
Alors, pour parler de mes élèves, c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile avec eux, parce qu'ils ont de moins en moins de champs, en fait. Hein, ils sont de plus en plus enfermés dans leur goût, qui sont tous les mêmes, en fait, hein, tout simplement. Et puis, avec ceux qui pratiquent, j'ai des relations tout à fait intéressantes. J'ai d'autres professeurs dans la salle des professeurs avec qui je discute de musique classique, sans aucun problème. Donc oui, c'est très variable en fonction des gens à qui j'ai affaire. On a encore un champ de réflexion tout à fait bienvenu. Mais je déplore et je suis inquiet du fait que la jeunesse y soit de moins en moins ouverte, parce qu'elle n'a plus les moyens de s'ouvrir, tout simplement. Elle n'a
Et
plus les moyens.
finalement, les moyens de s'ouvrir, est-ce que pour vous c'est lié à ce questionnement sur la révolution esthétique moderne, ou
Bien sûr.
est-ce qu'il faudrait y trouver d'autres facteurs?
Bien sûr, bon, faut savoir que l'art classique était réservé à la caste aristocratique, à la classe oisive qui avait le temps de s'en occuper, hein. Et donc la classe populaire n'a jamais été totalement en mesure de pouvoir l'apprécier, si ce n'est par l'art sacré, hein. L'art sacré dans les églises, dans les villages, c'est comme ça qu'elle pouvait s'y ouvrir. Mais vous voyez bien que maintenant, il n'y a plus de classe aristocratique, la classe religieuse, on n'en parle plus, et puis les églises ne sont pas fréquentées, donc les moyens de s'y ouvrir ne sont plus accessibles. C'est ça le problème. Et puis il y a un art populaire, évidemment, qui est venu tout submerger et qui aujourd'hui fait que par mimétisme social, eh bien, tout le monde apprécie à peu près les mêmes choses, hein.
Voilà,
en dehors de.
Un élément frappant, on va le voir dans la réflexion, hein, mais on sent au cœur de votre ouvrage, c'est que ce que vous, je ne sais pas si c'est ce que vous tentez de montrer, en tout cas ce qui semble se dégager du livre, c'est que sous le prétexte d'une hyper-individualisation, on en est arrivé à une uniformisation assez regrettable des goûts, même des usages. Terme est horrible du beau et de l'esprit, enfin de ce qui est vendu ou connu comme beau aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une uniformisation impressionnante, très impressionnante. Les musiciens qu'ils connaissent, en général, c'est Gims, parce qu'on peut plus mettre mètre devant. Donc moi, j'appelle millimètre. Ou alors Jul ou d'autres rappeurs de ce genre-là. En dehors de ça, il n'y a plus grand-chose, hein, plus grand-chose à dire.
Nous
J'ai
allons
ici
poursuivre. Allez-y, allez-y, allez-y.
un petit extrait de dissertation qu'ils m'ont écrit qui montre tout à fait ça, hein. Une œuvre d'art, c'est un ramasse-poussière. Voilà, donc c'est énormément cher. 60 000 euros pour des taches rouges sur un fond blanc, je trouve pas ça normal. Voyez, alors c'est une bonne idée de cadeau pour les anniversaires et les fêtes. C'est une idée que quand on ne sait pas quoi acheter d'autre aux personnes qu'on aime. Voilà, c'est ça qu'ils me disent sur l'art. C'est ça. Vous voyez, donc
Oui.
l'ouverture est un peu limitée, vous voyez, c'est un peu.
Nous allons continuer cette discussion avec Adrien Charles, auteur de La Révolution esthétique moderne aux éditions Aura Decima. Dès votre introduction, vous notez évidemment que ce n'est pas la seule révolution, vous notez même une mécanique intellectuelle entre ces diverses révolutions. Vous le rappelez, une révolution est pour vous une abolition, pour faire revenir au point de départ. Ainsi eut-il une révolution religieuse, puis politique et enfin esthétique qui va concentrer notre attention désormais. Et vous écrivez, cette dernière est certainement l'accomplissement des deux précédentes et la plus manifeste, puisque celle qui concerne la plus directement les apparences qui nous entourent.
Oui, c'est ce que je disais au début, hein, ça nous concerne directement. Et pour accomplir une évolution politique, quoi de mieux que de l'enrober ensuite dans les apparences? Non. On sera d'autant plus révolutionnaire nous-mêmes qu'on aura des apparences révolutionnaires autour de nous. Et comme je dis toujours, hein, on nourrit notre âme de ce qu'on en voit, hein, de ce qu'on voit du monde extérieur, hein. Si on vit dans les fleurs, on aura une âme fleurie. Si on vit dans le béton, moi, je vous laisse conclure, hein, évidemment. Oui, c'est donc.
Pour vous, ce qui est intéressant pour nos lecteurs, pour bien comprendre votre réflexion, c'est qu'il n'y aurait pas d'autonomie de cette révolution esthétique moderne. Elle est bien imbriquée dans d'autres révolutions. Et on ne parle pas d'un sujet qui serait sans connexion avec, évidemment, les considérations politiques et religieuses. Elle ne
C'est ça,
vise
c'est
pas
ça.
l'autonomie de sa sphère.
C'est cela, c'est le fond est politique. Enfin, avant d'être philosophique, il est politique. Hein. On a appliqué en matière d'art la révolution politique, qui elle-même obéit à une dialectique, hein, la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, qui dit très bien que pour abolir les contradictions, il faut faire une révolution qui va détruire l'oppresseur, et une fois que l'oppresseur sera détruit, on sera libre. Donc à partir de ce moment-là, on n'y a pas de choix, hein. On est obligé de la faire, cette révolution, si on veut se libérer d'eux. Mais là, le problème, c'est qu'on se libère de l'art classique. On se libère du beau classique. Et si jamais on a des résistances, si jamais on n'a pas envie de faire cette révolution, eh bien, on va dans les poubelles de l'histoire. Il faut qu'on soit mis hors service, hors jeu, et on est passé sous silence.
Oui, c'est le cimetière
C'est ça.
des éléphants. C'est le cimetière des
C'est ça,
éléphants.
exactement.
Ainsi écrivez-vous, ce qui s'appelait tout court art a été sommé de rédiger son certificat de décès. Ça, c'est une
Voilà.
assertion forte.
Ah, c'est fort, mais c'est vrai, c'est vrai. On n'a plus droit de citer, hein. On n'a plus droit de citer. L'art classique est immédiatement considéré comme dépassé. C'est le terme hegélien. Dépassé, ça veut dire il s'est supprimé tout en étant conservé comme vestige, quoi. Mais au fond, c'est un artefact qui n'est plus bon que pour les musées. Il n'est plus vivant, il est mort. Le vieux Pégase est mort, hein, comme on dit, hein. Donc il n'est plus vivant, il a été remplacé par autre chose.
Qu'on s'entende bien pour nos auditeurs qui pourraient saisir l'aspect intellectuel de notre réflexion et nous demander si empiriquement cela se vérifie. Par exemple, je n'en sais rien, donc je vous pose la question d'autant plus simplement. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, des champs d'expression de l'art classique, pas forcément amateurs, mais pour des gens qui voudraient en faire une vie ou une activité plus poussée. Est-ce qu'il y a un espace pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent encore à l'exprimer ou de manière très modérée?
Bien sûr, oui, il y a encore un espace, bien sûr. La musique classique est encore vivante, bien sûr, au niveau de ses représentations. Il y a encore un public pour ça, mais c'est un public qui est plutôt conservateur, on va dire ça comme ça, hein, qui est assez rétif à tous les changements du monde actuel. Et donc, ce n'est pas la majorité, on va dire ça comme ça. Ils appellent ça une poche de résistance, hein, c'est pour vous dire. Ça va jusque-là, oui. Donc, il y a encore du monde, bien sûr, mais on sent bien que ce n'est pas ça le moteur. Et c'est un vestige, un vestige.
Continuons dans l'introduction de l'ouvrage d'Adrien Charles, La révolution esthétique moderne aux éditions Aura Decima. Vous écrivez dans cette introduction, la révolution copernicienne en art suppose en effet de tout faire dépendre uniquement du sujet créateur. Et ça, évidemment, nous y reviendrons en plus en détail dans la suite de l'émission, mais il est essentiel pour vous de bien l'avoir en perspective initialement.
Ah, c'est le point de départ de cette révolution, c'est ça, hein, c'est le subjectivisme. Et je rappelle que le subjectivisme, c'est un argument sceptique. Hein, c'est du scepticisme au départ, c'est-à-dire c'est des gens qui ne croient pas à la vérité et que la vérité dépend du point de vue du sujet. Hein. Donc, il n'y a pas de vérité donc, en matière d'art, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, à partir de là, vous décidez vous-même si vous trouvez beau quelque chose ou non. Et c'est l'argument de mes élèves, c'est toujours le même de toute façon. Hein. Devant un tableau, il y en a un qui va le trouver beau et puis l'autre qui va le trouver moche. Et donc, le tableau n'est pas beau par lui-même, hein, c'est nous qui décidons de sa beauté. Et c'est avec ça que tout commence. Hein. Vous trouvez ça chez Montaigne. Montaigne a ses mêmes arguments. Hein. En fonction de chaque culture, vous avez une beauté différente. On ne peut pas comparer, on ne peut pas hiérarchiser. Donc, voilà, c'est relatif tout ça. Et c'est subjectif surtout. Ça commence comme ça. Ça ne tient pas, hein. Et philosophiquement, ça ne tient absolument pas. Ce sont des arguments qui sont des expériences de pensée, mais on peut facilement aussi avoir des expériences contraires. Sur YouTube, vous avez les 4 saisons de Vivaldi qui ont, 17 milliards de vues, je crois, un truc comme ça. Non, je comprends. 17 millions, il y en a 7 qui n'aiment pas. Il y en a 7. À cause de ces 7 qui n'aiment pas, eh ben, il faut dire que ce n'est pas beau. Vous voyez, ça arrive jusqu'à ce genre d'aberration.
Réflexion intéressante, puisque vous évoquez par ailleurs dans votre introduction le phénomène d'une famine du beau. Que voulez-vous dire par là?
Très important ça, oui. Nous sommes tous en famine du beau. Les auditeurs de votre radio, j'ai remarqué d'ailleurs, hein, veulent du beau. Ils veulent du beau. C'est parce qu'ils en ont soif. Et pourquoi en ont-ils soif? Parce qu'ils n'en disposent plus comme il le faudrait. Ils en manquent. Ils sont en famine. Nous sommes dans un désert esthétique. Si vous regardez dans les environnements des villes aujourd'hui, c'est du béton, de la géométrie, des formes vides, des grandes matières mortes, mais il n'y a pas de quoi rendre l'esprit alerte, vivant, surpris, et ainsi de suite. Il manque un aspect esthétique à tout ça. Alors heureusement, en France, on a quand même du passé, hein, on a du passé, on a des belles œuvres, hein, mais si on va ailleurs, dans des pays qui ont moins d'histoire que nous, c'est le désert, hein, c'est la famine. Et on ne s'en aperçoit pas, évidemment, parce qu'on est habitué à ce qu'on voit. Mais quand ce qu'on voit est vide, et bien évidemment, on s'habitue au vide. Comme dit Aristote, quand on mange de la terre, et bien on finit par aimer manger de la terre. Voilà, c'est tout à fait ça, on s'habitue au rien.
Je superpose à ce néant, un principe qui vient en plus, si surajouté, c'est le principe d'économie. Ainsi, vous écrivez-vous, le principe d'économie et celui de contemplation ne font guère bon ménage.
Ben non, je regarde ma salle de classe, par exemple. Hein. Ce n'est pas la Sorbonne, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec ma salle de classe, c'est gris-souris, gris-morgue. Voilà, il y a un peu de blanc cassé. Il n'y a aucune décoration. Il n'y a même pas de poster au mur. Il n'y a rien à voir. C'est absolument pas attrayant, ça ne chatoie pas, c'est pas chatoyant. Il n'y a aucun intérêt pour les élèves qui s'y ennuient deux fois plus. Hein. Qu'à la Sorbonne, moi je regarde le plafond. Au lieu de travailler, je regardais le plafond. Comme ça, j'ai des choses à voir. Mais hein. Dans les salles de classe habituelles chez nous, il n'y a plus rien du tout. Et donc la fonction a remplacé l'esthétique, manifestement, la fonction a remplacé le beau. On fait de l'économie, quoi. On fait l'économie sur l'apparence. On va au plus simple, au plus économique. Donc l'ingénieur a remplacé l'artiste en fait, hein, tout simplement. L'ingénieur, lui, il va au principe d'économie, il ne va pas à l'esthétique, qui est dispendieuse évidemment.
Entrons désormais dans le cœur de l'ouvrage d'Adrien Charles, de cet ouvrage intitulé « La révolution esthétique moderne ». Vous écrivez à l'orée du premier chapitre, cette crise, la crise dite de l'esthétique moderne, débute avec l'invention de l'esthétique moderne au XVIIIe siècle. Faisons un petit peu l'état de cette invention.
Oui, alors celui qui a inventé le mot « esthétique » et qui en a fait une science, c'est Alexander Gottlieb Baumgarten. C'est un philosophe allemand, disciple de Christian Wolff, sur lequel j'ai fait ma thèse, et qui a donc voulu faire une science des apparences sensibles. Une science des apparences sensibles. Donc c'est le premier qui a voulu vraiment cadenasser la sensation et en faire une espèce de connaissance scientifique en vue de perfectionner les sensations pour les rendre aptes à saisir le beau. C'est intéressant comme démarche, hein, mais le problème, c'est qu'il fait du beau quelque chose qui est en nous, quelque chose qui est de notre ressort intérieur. Il laisse tomber la beauté des choses pour uniquement se concentrer sur ce qu'on en ressent. Et c'est là tout le problème, puisqu'il subjectivise, il rend subjectif cette beauté. Plutôt que de parler de la beauté d'un chêne, il va parler de ce que je ressens de la beauté du chêne. Et c'est là que ça cloche, si vous voulez. C'est-à-dire que le beau n'est plus une affaire d'objet, c'est une affaire de sujet. Et c'est là que commence la révolution moderne, si vous voulez. C'est moi qui va décider de la beauté des choses. Vous vous rendez compte? Mais à quel point on en est rendu? Alors, ce que je dis toujours, mais c'est complètement bizarre, parce que si le beau est en moi et pas dans la chose, ça veut dire que c'est moi qui rend la chose belle. Comme dit Voltaire, le chimpanzé rend belle sa guenon. Mais alors, comment ça se fait que quand je suis surpris par une œuvre belle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis surpris? Ça veut dire que je suis surpris par ma beauté à moi. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce narcissisme? Vous vous rendez compte? C'est comme si je me surprenais à être beau. Et imaginez un peu, les femmes ne sont pas belles par elles-mêmes, c'est les hommes qui les rendent belles. Mais alors ça veut dire quoi? Inversement, bien sûr. Hein. Mais ça veut dire qu'on est toujours attiré par nous-mêmes, finalement. On est toujours attiré par nous-mêmes. Vous voyez que philosophiquement, rationnellement, c'est quand même limite comme truc. Vous voyez, hein. Donc ça, on ne voit pas bien.
Et puis ce passage, ce retour à l'intérieur du sujet pose une autre question, presque cosmologique, j'allais dire. C'est votre réflexion aussi. Si le beau n'est plus qu'un sentiment du sujet, écrivez-vous, que devient alors le beau naturel?
Ben voilà, le beau naturel disparaît. Les choses ne sont pas belles par elles-mêmes. C'est à nous de leur projeter sur elles notre beauté à nous. Mais les questions pleuvent. Enfin, d'où vient cette beauté que nous avons en nous? Comment se fait-il que nous la projetions comme ça et par quel miracle? Et puis surtout, comment se fait-il que les choses naturelles ne soient pas belles? Dieu n'a pas-il fait des belles choses? Ah non, 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 les philosophes modernes refusent cette idée. Ah non, 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 notre beauté, elle est en nous et on ne peut pas la tirer des choses mêmes. C'est une absence totale de réalisme, hein, et quelque part, c'est la condamnation de tout l'art classique qu'il y a derrière. Hein. On refuse de se régler sur les choses. On veut se régler sur nous-mêmes. Hein. C'est une révolution subjectiviste. Et là, c'est ça le principe.
Cette révolution subjectiviste va connaître deux étapes supplémentaires, deux étapes de pensée. D'abord avec Kant, qui évidemment avec la critique de la faculté de juger, mais d'autres textes également, va servir de point essentiel dans la construction de cette esthétique moderne. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette réflexion de Kant au sujet de l'esthétique?
Oui, alors je ne veux pas perdre les auditeurs. Hein. On va aller au plus simple. Disons que avant Kant, règne le principe de l'imitation de la nature. On va imiter la chose parce qu'elle est belle, et donc notre imitation sera belle parce qu'elle s'inspire du beau naturel. Bon, c'est très simple, et ça a toujours fonctionné comme ça. Avec Kant, c'est plus possible, puisque le beau n'est plus naturel. Donc, il va falloir que je trouve un autre moyen que le mimétisme, d'imitation. Il faut pas que j'imite, c'est impossible. Chez Kant, il y a une espèce d'attaque de l'imitation qui est complètement affolante. Qui est complètement dingue. Il va jusqu'à dire qu'imiter, c'est de la singerie. C'est de la singerie. Alors que l'imitation véritable, c'est pas simplement une photocopie du réel, hein, pas du tout, jamais. On ajoute une création dans ce qu'on imite. On ajoute toujours quelque chose dans ce qu'on imite. Il y a une création toujours, même dans l'imitation fidèle. Hein. C'est jamais totalement réaliste. Il y a toujours un truc qu'on ajoute. Mais lui, non. Non, il ne comprend l'imitation que comme une photocopie sans aucun intérêt du réel. Et pour lui, c'est complètement inutile. C'est vain, c'est stérile. Il faut créer plutôt qu'imiter. Mais alors, vous devinez bien que créer, ça va supposer que je ne me base que sur moi, que sur mes propres ressources subjectives. La nature cesse d'être inspiratrice. Ça va être moi tout seul de créer, d'inventer quelque chose qui n'existe pas encore, finalement, pour faire de l'art. Et vous voyez que là, déjà en germe, il y a déjà l'art abstrait, si vous voulez. L'art abstrait est déjà là-dedans. Il faut que je crée quelque chose qui n'existe pas naturellement. Donc l'art devient un truc complètement artificiel, qui ne s'inspire plus du tout de la nature, hein, et qui va projeter dans l'objet d'art ma propre beauté. Si jamais c'est beau, ah, c'est même pas garanti en plus, mais si jamais c'est beau, eh bien, ce sera ma beauté que j'aurai exprimée, comme on dit, parce que l'art moderne, c'est un art d'expression. Il faut exprimer ce qu'on est. Il ne s'agit plus de copier ce qui existe, hein, il s'agit d'exprimer ce qu'on est. Donc c'est une projection du sujet dans l'objet. Voilà à peu près Kant, hein, c'est ça. Bon. Alors il essaie de sauver quand même l'universalité du beau en disant « Oui, mais on s'accorde tous à peu près sur le beau parce que bah, ça plaît universellement à tout le monde. » Ou du moins, ça peut plaire, en théorie, à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'il sauve à peu près les meubles, mais c'est tellement subjectiviste que, à mon avis, ça ne résistera pas à la vague qui va suivre, hein, et qui est donc la révolution réelle, factuelle de l'art moderne, qui va être relativiste complètement.
Trois points qui pourront intéresser, je crois, nos auditeurs chez Kant. D'abord, une réflexion que vous avez qui note que l'art n'est plus, à cette occasion, une connaissance, mais seulement un sentiment. Et là, c'est extrêmement intéressant également.
C'est très grave. J'ai jamais admis ce genre de posture. Enfin, l'idée que l'art ne serait pas intellectualiste. Que ce ne serait pas une affaire d'esprit, une affaire de connaissance, ce serait uniquement une affaire de sensibilité. Voilà. Donc il n'y a rien à comprendre, circuler, il n'y a rien à voir, on ne comprend pas l'œuvre, on ne comprend pas le beau, il y a juste qu'à sentir, c'est tout. Alors ça m'a toujours dépassé cette histoire-là, parce que quand j'écoute une fugue de Bach, ou n'importe quelle fugue, c'est quand même des mathématiques sonores, et ça plaît à l'intelligence aussi, et l'intelligence s'y retrouve en ordonnant les structures, en voyant pourquoi elle est faite et tout, et vous voyez, les structures internes dans la musique qui font qu'on comprend, mais pour Kant, non, pas du tout, il faut simplement ressentir, parce que c'est sans concept, dit-il, hein. Il n'y a pas de concept dans le beau, je ne sais pas pourquoi c'est beau. Donc, bah, c'est un anti-intellectualisme, hein, et pour moi, c'est un deuil de la pensée. Hein. C'est un deuil de la pensée. Et alors, ça ouvre la perspective à l'art romantique, après, hein, bien sûr, un art qui se sent, mais l'art se comprend aussi. Et c'est pas parce que ça plaît à l'intelligence que c'est aussi beau. Sinon, bah, à quoi bon ? Nous ne sommes pas que des êtres sensibles. Et réduire comme ça le beau à quelque chose qui serait sans concept, donc sans connaissance, sans prise sur l'intelligence, c'est une décision, à mon avis, extrêmement grave. Hein, extrêmement grave.
Avec des conséquences, par ailleurs, puisque vous poursuivez, le beau donne à penser, le beau donne à penser, mais ne donne plus à connaître. Il se réfléchit sans pouvoir être constitutif de la chose jugée, plongeant le sujet dans l'agnosticisme.
Voilà, agnosticisme veut dire je m'abstiens de juger. Je ne peux plus juger. Le beau n'est plus compris. Comme il n'est plus compris, bah, je ne peux pas juger, je ne peux pas évaluer. Donc, quelque part... Je suis impuissant. La beauté me surprend, mais je ne sais même plus pourquoi. Et je ne peux pas l'expliquer. Donc, je suis livré à une espèce d'impuissance constitutive. C'est ça l'agnosticisme. Hein. Je ne sais plus. Et donc, le beau, ici, devient en quelque sorte incompréhensible. Incompréhensible. C'est complètement bizarre.
Le beau incompréhensible, il est aussi, c'était donc ma dernière partie chez Kant, pour qu'on saisisse bien, il y a un anti-intellectualisme clair, mais aussi le règne de l'idée, puisque c'est le règne de l'idée esthétique, écrivez-vous. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer cette notion d'idée esthétique chez Kant ?
Bah oui, alors finalement, l'idée remplace les choses, puisque la nature ne peut plus être imitée. Il faut bien que pour produire quelque chose d'artistique, je me base sur... quelque chose, il faut bien que je crée quelque chose. Alors c'est quoi ce quelque chose ? Pour Kant, il y a besoin de deux facultés seulement, l'imagination et la raison. La raison donne une espèce de concept abstrait, hein, le thème de l'œuvre en quelque sorte, et l'imagination va en quelque sorte remplir cette abstraction, l'incarner, et les deux ensemble vont former ce qu'on appelle une idée esthétique. L'esthétique, c'est une raison plus une image ou une perception ou un son qui va être l'œuvre, qui va être l'œuvre. Donc, par exemple, une idée esthétique, c'est pam 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 pam. Hein, c'est un thème musical, une idée esthétique. C'est le mélange entre un concept et puis une incarnation sensible que j'ai inventée dans mon imagination. Donc, il n'y a plus besoin de nature. La nature a disparu, il n'y a plus besoin que de ma faculté d'imaginer qui va suffire pour créer l'œuvre. Donc, c'est du subjectivisme, intégralement. C'est tout, hein, je me base que sur le sujet pour produire.
Ce sujet sur lequel nous allons il va être fondé, il va être aussi mis en cœur de la dialectique, qui est pour vous le deuxième point essentiel à comprendre pour cette révolution esthétique moderne, et là on en passe évidemment à Hegel. Pourquoi faites-vous, Adrien Charles, un détour par Hegel dans cette analyse de la généalogie intellectuelle de la révolution esthétique moderne?
Ben, c'est fondamental. Hegel commande toute la pensée contemporaine, et pas seulement en art, hein, vous le savez très bien. En politique aussi, la dialectique, c'est celle que va reprendre Marx. Hein. Donc, nous sommes imbibés jusqu'à la moelle de cette dialectique. Moi, j'en peux plus de la voir partout à ce point. Mais en art aussi, malheureusement, hein, les artistes modernes et contemporains, pour se justifier, se justifient par l'appel à la dialectique, tout simplement. Donc, dialectique du maître et de l'esclave, hein, thèse, antithèse, synthèse, il faut dépasser ce qui existe par ce qui n'existe pas encore, et par conséquent, tout ce qui existe déjà doit être surmonté, aboli. C'est ça qui plaisait à Marx. Hein. Ce qui lui plaisait dans la dialectique, c'est que c'est une logique d'abolition. Il faut abolir ce qui existe pour le remplacer par ce qui n'existe pas encore. C'est une dialectique révolutionnaire, et c'est la logique de toute révolution, c'est celle-là. Hein. Alors moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Personnellement, la dialectique, pour moi, ce n'est pas de la synthèse, hein, c'est plutôt de la foutaise. Mais il y a des tas de gens qui y croient encore, hein, et ils y croient dur comme fer, notamment des directeurs de musées contemporains. Je vois bien dans ce qu'ils disent, hein, ils font fond là-dessus. L'art, c'est une révolution qui doit dépasser l'art classique et le remplacer par autre chose. Donc, moi, je n'y vis pour rien, il faut bien en parler, puisque c'est eux-mêmes qui en font usage. Hein. Ils en font usage. Et malheureusement, ils y croient, eux. Ils y croient. Dur comme fer.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément comment cette dialectique du maître et de l'esclave va être utilisée au sein même de la réflexion sur la création artistique elle-même? Parce que on a bien imaginé le concept de beaucoup qui sont familiers à ces conséquences gravissimes en matière politique. Bon, évidemment, bien voilà, oui. Vous allez, mais pour ceux qui auraient besoin de l'illustrer plus directement sur notre sujet.
Alors, j'ai pris l'exemple de Renoir. Renoir, donc le jeune Renoir, hein, qui est encore en train d'apprendre la peinture, qui est dans son atelier, dans l'atelier de son maître Charles Glaire. Et donc, Charles Glaire l'oblige à peindre de manière académique, évidemment. Et sauf que Renoir, lui, il fait à son image, à son idée, hein, il fait n'importe quoi, en gros. Hein, il ne respecte pas les règles, il peint spontanément, il ne s'astreint pas à la règle. Et il le fait exprès, hein, et c'est un rebelle. Et donc, Glaire lui dit, en passant devant son tableau, « C'est pour vous amuser que vous peignez, n'est-ce pas ?» Et Renoir répond, « Bah oui, bien sûr, si je ne m'amusais pas, je vous prie de croire que je ne peindrai pas. » Et là, on voit bien que la dialectique est déjà mise en place, c'est-à-dire que bah, bientôt, le jeune Renoir va sortir de l'atelier de Glaire en le condamnant comme étant quelque chose de passé, quelque chose qu'il faut abolir, parce que c'est plus l'avenir, ça. Maintenant, il faut faire place à la liberté, il faut se libérer de cet horrible oppresseur qu'est l'art académique. Il faut absolument se défaire de ces chaînes pour que l'artiste soit enfin libre, toujours le même. Verbiage, hein, toujours, c'est dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Libérons-nous de l'oppresseur qui nous a rendus esclaves afin de nous déchaîner, de nous enlever nos chaînes. Et comme ça, nous serons enfin autonomes, libres, enfin le paradis sur terre. Quoi, hein, voilà. Donc l'art sera enfin abouti quand il aura détruit l'art académique. Voilà ce qui s'est passé, hein, c'est tout. Hein, c'est aussi bête que ça.
Et vous appliquez ça à tout. Ces attaques sur l'académisme, ne sont pas simplement une conclusion intellectuelle que vous tireriez de l'analyse des textes, elles sont, j'allais dire, très fréquentes dans les commentaires des artistes eux-mêmes sur leurs pères et leurs prédécesseurs. Le rejet de l'académisme est presque la banalité de l'expression des artistes.
Ah oui, c'est un réflexe de pensée. On apprend ça à l'école, quoi, quasiment. Donc, c'est un réflexe de pensée que personne ne met jamais en question, jamais. N'est jamais interrogé pour lui-même. C'est, C'est intégré en eux comme leur colonne vertébrale, quoi. C'est par ça qu'ils existent, hein, littéralement. Bah, sinon, il n'y aurait pas d'art moderne, donc forcément, ils ne jurent que par ça, hein, c'est ça qui l'explique. Forcément, donc, c'est leur pivot, hein, c'est leur pivot. Mais ce que je remarque, c'est que la philosophie a précédé la révolution effective. Elle a été pensée avant d'être mise en œuvre. C'est intéressant, ça. Ce qui montre bien que le fond de l'affaire est philosophique.
Nous allons continuer à parler de ce fond de l'affaire philosophique, pour reprendre votre expression, Adrien Charles. Après notre première pause musicale, nous continuerons à parler de votre ouvrage « La révolution esthétique moderne » aux éditions Ora Decima. Vous êtes de retour dans le Libre Journal des Débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir au cours de cette émission Adrien Charles, qui publie « La révolution esthétique moderne » aux éditions Ora Decima. Nous venons de parler, Adrien Charles, de la question de cette révolution esthétique moderne et de ses racines philosophiques, notamment. Il y a une application très intéressante à étudier, c'est évidemment la question de l'art romantique. Vous indiquez ainsi, les artistes modernes du XIXe siècle vont d'abord chercher à faire de la nature non plus un principe à imiter, mais un support réfléchissant, art spéculaire, permettant de s'exprimer soi-même, de ce fait même, de révéler la vérité du moi à la manière d'une connaissance.
Oui, ça a pas l'air simple tout de suite à la première lecture, mais en fait, disons que l'art romantique m'a beaucoup gêné, parce que je comprenais pas, ça avait l'air quand même classique. La façon de faire, l'imitation ressemblait toujours à celle de l'art classique, et pourtant c'est un art moderne, vous voyez, c'est délicat à comprendre cette affaire-là. Et à mon avis, la clé de compréhension, c'est que en fait, la nature est un prétexte, hein. C'est pas du tout la nature qu'on va imiter, il faut en faire un miroir, hein. On va faire de la nature un miroir pour se projeter soi-même dedans. On applique bien le subjectivisme moderne dans l'art romantique. Alors même si la technique reste la même, hein, on imite toujours la nature, mais ce n'est plus qu'une imitation prétexte. Voilà, c'est ce que je peux proposer comme thème, hein, pour comprendre ce que ça peut être en fait. Donc il ne s'agit pas de contempler la belle nature, hein, il s'agit de se voir soi-même dedans. Alors à travers ses états d'âme, hein, à travers ses sentiments, ses émotions, hein, les couchers de soleil, les animaux comme ça qui se déchaînent, les scènes effroyables, monstrueuses, tout ça c'est fait pour exalter les sentiments du sujet. Donc, l'art moderne c'est un art d'expression du sujet, c'est pas un art de contemplation de l'objet, hein, donc surtout pas. À partir de là, on comprend ce que signifie l'art romantique, c'est un pré-art moderne, c'est un art moderne, ça préfigure un petit peu. Mais les procédés classiques sont un peu conservés, mais le but a déjà changé. Le but a déjà changé. Il s'agit d'exprimer le sujet.
Voilà, donc, vous prenez à cet égard l'exemple du tableau qui est repris à chaque fois qu'on parle de l'histoire des arts, celui du voyageur contemplant la mer des nuages. Si vous pouvez nous le décrire en quelques mots et nous expliquer en quoi il vous paraît exemplaire de ce tableau.
Voilà, c'est exemplaire. Alors, j'espère que tout le monde voit bien ce tableau dans son imagination, hein, mais c'est le tableau, on voit le sujet qui se contemple dedans. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Hein. Le miroir est avec celui qui se mire. Alors que les autres tableaux romantiques, on ne voit pas le sujet, mais là, on le voit. Donc c'est ça qui est intéressant. Hein. On voit les deux. On voit les deux. Le sujet qui contemple la mer de nuages et la mer de nuages elle-même qui est contemplée. Donc on voit bien ici que c'est une réflexion. Hein. Ce n'est pas du tout une contemplation. Alors nous, on voit ces deux, l'objet et le sujet, on voit les deux. Mais on voit bien ici qu'il ne s'agit pas de contempler la mer de nuages. On contemple le contemplateur. Et donc, on se projette en lui, quelque part. Et donc, il y a une espèce de double réfléchissement qui fait qu'on voit bien que c'est un art complètement subjectif. Alors, on parle de nous dans le tableau, on ne parle pas du paysage.
Nous parlons de nous. Un peintre vous paraît à cet égard extrêmement révélateur, c'est Delacroix.
Ah oui, Delacroix, oui. Oui, c'est l'énergie de la passion. Hein, donc, il va essayer de refléter en nous les émotions liées à l'énergie, les émotions énergiques. Alors, soit dramatique, soit optimiste, mais c'est toujours quelque chose qui reflète le sujet dans ce qu'il a de plus pathétique, au sens fort du terme. Hein, pathétique au sens où il subit ses passions. Donc, les animaux qui se déchaînent, les panthères qui attaquent des chevaux, les têtes de tigres, de lions qui rugissent, des choses comme ça. Donc, c'est un art évidemment très, très, très expressif, hein, très expressif, et sûrement très beau aussi, bien sûr. On n'a pas totalement aboli le beau, puisqu'on imite encore la nature. Mais n'empêche que c'est toujours nous qui sommes le vrai sujet de la toile. C'est nous le vrai sujet. Il parle de nous.
J'allais vous demander comment peut-on distinguer ce qu'il y a de propre à l'art romantique avant d'en arriver à la révolution effective que vous dites de l'art moderne. Finalement, qu'est-ce qui va le distinguer en peinture ?
Alors, c'est le philosophe Schelling qui a ajouté quelque chose et qui a dit le premier, je crois, que l'art romantique ne visait pas que le beau, il visait aussi le vrai. Comme si l'art devenait une philosophie, en fait. C'est à l'art, et non plus à la philosophie, de révéler la vérité des choses. Alors, il y a un aspect panthéiste là-dedans. Hein. Au fond, Dieu, c'est comme la nature, et comme la nature, c'est notre miroir, il faut que ce que je peigne dans l'art révèle la vérité des choses. Voilà, il y a un aspect révélateur de vérité en art. Ce qui est complètement étrange, puisque dans toute la tradition, en principe, l'art, c'est une production, c'est pas du tout une connaissance. Mais à partir de l'art romantique, on cherche à faire de l'art une connaissance, comme si ça allait remplacer la philosophie, la physique, les maths. On pense que c'est même une connaissance plus vraie que les autres matières. C'est-à-dire, si vous dire, on en fait une science, en fait. L'art devient une science chez les romantiques. C'est assez spectaculaire.
Nous en arrivons à une date charnière que vous étudiez précisément, Adrien Charles, c'est le 15 mai 1863. Que se passe-t-il le 15 mai 1863 ? Est-ce que c'est une inflexion ? Est-ce que c'est une révolution ? Que se passe-t-il ?
Ça paraît assez accidentel comme principe. On pourrait, mais pourtant, c'est très important, puisque c'est là que tout bascule. Donc, comme d'habitude, et tous les ans, c'est une exposition officielle de l'art officiel, hein, donc avec des juges et tout qui forment l'art académique et qui choisissent les peintres apprentis pour voir lesquels sont les plus talentueux et donc ceux qui feront carrière. Donc il y a des candidats qui exposent c'est un salon, hein, c'est un salon officiel, hein, et qui exposent leurs œuvres. Et cette année-là, comme dit l'autre, hein, où sur 5000 œuvres exposées, il y en a plus de 3000 qui vont être refusées. Et on ne sait pas trop pourquoi, apparemment la qualité a baissé, mais sur ces 3000, il y en a beaucoup qui vont ne pas être contents, qui ne vont pas se contenter de leur sort et qui vont protester. Et ils vont protester auprès de qui ? Eh bien, de l'empereur lui-même, de Napoléon III. Et Napoléon III, de son autorité, va décider de l'existence d'un salon dissident, donc opposé au salon officiel. c'est quelque part de sa responsabilité si ce salon dissident a vu le jour. Et c'est là que ça commence. Hein. L'art moderne commence avec ce salon dissident. Voilà, c'est l'enclenchement, il est là. C'est une décision.
Il y a un homme qui joue un rôle tout particulier, tout important sur lequel vous revenez, c'est Manet.
Oui, Manet, c'est le chef de file. Hein, donc lui, il fait les choses délibérément, il les a pensées à l'avance et tout, hein, pour provoquer le jury, dont vous connaissez évidemment le déjeuner sur l'herbe, qui en apparence paraît aujourd'hui tout à fait anodine et classique, mais qui en fait choisit délibérément de désaxer, de contourner toutes les règles académiques par pure provocation. Et c'est pas pour rien que les gens voudront lacérer la toile hein, pour immoralité flagrante, parce que c'est une toile qui ne correspond plus du tout au canon académique. Et donc c'est un succès de scandale. Et ça ne cessera plus d'être un succès de scandale, l'art moderne de toute façon. Hein. C'est sur ce petit jeu-là qu'ils vont faire toute leur influence. Il faut scandaliser. Comme le dit Picasso, il faut choquer le bourgeois. Choquer le bourgeois, c'est le principe même de la révolution. Hein. Il faut choquer, heurter, rompre. Donc c'est violent, et c'est toujours violent quelque part, la révolution. Et en art, ni plus ni moins qu'ailleurs. Les yeux bleus de la révolution. Pardon, la révolution, les yeux bleus de la révolution brillent d'une cruauté nécessaire. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aragon. Et ça marche en art aussi. Hein. Une cruauté nécessaire.
Élément important pour le rappeler, donc la beauté formelle, écrivez-vous, canonique et sacrée, va être refusée comme étant inaccessible et vaine. Alors, pourquoi inaccessible et pourquoi vaine ?
Bah, ça s'explique par ce qu'on vient de dire. Puisque c'est subjectif, bah, c'est pas objectif, et donc bah, c'est vain. On va pas aller chercher la beauté d'une nature qui n'est plus belle. Puisque le beau est en nous, on va pas la chercher dans la nature. Donc la revendication des modernes va être très simple. Hein. Il faut exprimer le beau qui est en nous, et même plus du beau d'ailleurs, il faut s'exprimer tout court, hein, plutôt que de chercher à imiter quoi que ce soit. Il faut être absolument moderne, comme dit Baudelaire. Hein. Donc, on va refuser l'imitation en art, et puis on va créer quelque chose qui soit de nous, sans règles. On va refuser les règles académiques, et voilà, on va chercher ailleurs la source de l'art, en nous donc.
Donc, fi des règles. Cela prend deux traits, l'anti-académisme dont on a parlé, et également l'anti-réalisme. Pourquoi l'anti-réalisme ?
Anti-réalisme, parce que le beau n'est plus réel. Le beau n'est plus réel. Il faut capter les apparences pures, mais ce n'est pas la réalité, ça. C'est ce que moi, j'interprète du réel qu'il faut montrer. L'impressionnisme, c'est ça. On ne peint plus la nature elle-même, on peint nos impressions sur la nature. Donc c'est subjectif. Il ne s'agit plus de se régler sur le réel, hein. On va se régler sur nos sensations, sur notre vision du monde. Comme disent aujourd'hui les artistes, entre guillemets, il faut interroger notre rapport au monde. Hein. C'est ça le but. Donc le monde, on s'en fiche, l'important c'est notre rapport. Hein, oui. À partir de là, tout s'explique. Hein.
Ça prendra des conséquences, on le conçoit bien en peinture, mais pas seulement. Vous étudiez déjà la question de la musique romantique, notamment Boulez, qui affirme qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre. Il écrit ainsi « J'ai toujours pensé que les civilisations fortes sont celles qui se moquent des civilisations précédentes et qui savent les oublier ou les détruire. »
Eh oui, je connais un ami, un collègue qui a été profondément choqué par cette citation. oui, bah oui, c'est la citation révolutionnaire par excellence, hein, et ça vaut pour tout, hein, ça vaut pour tout. Vous êtes révolutionnaire si vous acceptez cette citation. C'est-à-dire, voilà, on est orphelin, comme l'Émile de Rousseau, on est orphelin de père et de mère, on n'a pas d'héritage, il faut surtout pas d'héritage, il faut se débrouiller tout seul par nous-mêmes, sans règles, sans loi, sans autorité. Voilà, c'est l'anomie, c'est une absence totale de règles. Donc, il faut débrouillez-vous tout seul, reconstruisez tout à vous tout seul, faites table rase du passé, et puis faites à partir de vous-même, essayez de faire plus que zéro si c'est possible.
Et à partir de nous-mêmes, et même à partir d'une remise en cause de tout le schéma classique, vous prenez l'exemple de ce compositeur, Cage ou Cage, je ne connais pas la manière dont on prononce exactement, élève de Schoenberg, qui fait encore mieux, estimez-vous. Il estime, quant à lui, que le facteur de la musique, c'est le bruit, et que le bruit est déjà de la musique. Adrien Charles, est-ce que vous m'entendez ? Ouais, Nous faisons une petite pause musicale et nous retrouvons Adrien Charles.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Nous avons retrouvé Adrien Charles, dont la connexion s'est soudainement interrompue quand je lui ai parlé de ce compositeur qui, quant à lui, considérait que le bruit était déjà de la musique. Il n'y avait donc pas besoin de notes pour qu'elle existât.
Oui, voilà, c'est tout à fait impressionnant. Hein. Faire écouter du silence en concert, je ne sais pas s'ils ont payé cher pour écouter ça, mais ça devait valoir le coup quand même. J'imagine que ceux qui toussaient devaient quand même perturber le concert aussi profondément.
Si le bruit fait de la musique, peut-être que
ça fait partie du concert.
Ça fait partie des concerts. Autre élément en littérature de ce virage, pour vous, c'est le rôle de Charles Baudelaire, dont on sait qu'il a eu ses considérations esthétiques en poésie, évidemment, mais qu'il a écrit de nombreux salons, qui sont des critiques des salons noirs de peinture de l'époque. Pourquoi, pour vous, est-il un point de passage important pour comprendre cet art moderne?
Alors, c'est un point de passage important, et en même temps, c'est quelqu'un de complexe, Baudelaire. On ne peut pas le réduire non plus à cette fonction-là. Hein. Il est plus compliqué que ça. Il y a intérêt à faire très attention avec Baudelaire. Mais c'est vrai qu'il a quand même dit qu'il faut être absolument moderne, et donc rejeter les règles classiques en littérature. Donc il l'a dit. Après, il a regretté, mais il l'a dit. Et donc le principe, ce n'est plus de chercher le beau idéal, hein, ou le beau absolu, c'est de chercher la vie moderne, hein, la vie qui nous entoure, et de décrire les choses dans leur plus grand dénuement, dans la plus grande simplicité, quitte à prendre des métaphores parfois assez tristes ou assez misérabilistes. Voilà, donc le beau idéal doit cesser, il faut maintenant parler de la vie moderne, la vie qui nous entoure. Alors en littérature, ça va donner lieu à ce qu'on appelle l'abstraction moderne, c'est-à-dire que la façon de dire va importer plus que ce qu'on va dire. Ça va donner du Flaubert. Flaubert, je respecte énormément le génie de Flaubert, qui est tout à fait considérable. Hein. Il trouve le moyen de pouvoir dire un roman tout entier de manière superbe et travaillée, hein, sur des sujets complètement rebattus, sans intérêt, et qui l'ennuie lui-même, puisqu'il disait lui-même « ma Bovary m'ennuie ». Donc des sujets ennuyeux et rebattus, lui va commettre la prouesse d'en dire des belles choses sur 500-600 pages. C'est ça l'abstraction. La façon de dire va importer plus que le sujet, finalement. Et ça va aboutir à Rimbaud. Hein. Rimbaud va très bien bon voir que ça n'aboutit à rien. On se coupe du réel, finalement, et le poète devient un wordsman, c'est-à-dire un homme de mots. Le mot seul compte. Mais on est coupé du réel, c'est-à-dire que bah, ça devient un verbiage. Il suffit de bavarder, c'est un bavardage. Et ça ne peut aboutir à rien d'autre qu'à l'incohérence. Et les romans modernes, on voit bien que c'est incohérent. Il n'y a pas de trame, ça ne respecte plus un certain scénario, et ça n'aboutit pas, il n'y a pas de fin. C'est complètement déstructuré. C'est un roman déconstruit, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça qui aboutit le roman moderne. Voilà, donc on a déstructuré complètement, par anomie, par absence de règles, ce qui faisait le roman classique.
Vous avez effectivement la réflexion non seulement sur la littérature, mais également sur le théâtre classique.
Ah, le théâtre, même scénario. Enfin, pour tous les arts, c'est pareil. Hein, c'est la même logique qui s'applique. Hein. Ouais.
Bon, on va le faire tout ça, parce que je crois que c'est intéressant de montrer cet aspect complet de la...
Alors pour le théâtre, bah, c'est se passé un petit peu avant la peinture, hein, dans les années 1830, hein, puisque là, c'est la fameuse bataille d'Hernani, hein, que tout le monde connaît, entre les romantiques et les classiques. C'est vrai que le pouvoir de l'époque est un peu sourcilleux sur les pièces de théâtre, il ne fallait pas non plus trop aller dans les excès, mais alors là, pour le coup, on a voulu aller dans tous les sens. Hein, on a voulu de l'expressif, hein, faut exprimer, donc on va démolir la règle des trois unités d'Aristote, qui est un petit peu interprété de manière trop rigide aussi, hein, faut se dire. Mais, et puis voilà, ça va aboutir à un théâtre d'expression pure, hein, comme si Lorenzaccio de Musset était plus expressif que les pièces de Racine. Là, c'est quand même discutable, cette affaire-là. Mais oui, on s'imagine que... Alors, ça aboutit au XXe siècle, à des pièces de théâtre, ben, voilà, qui sont subversives au possible, où les acteurs jouent nus, des choses comme ça, et qui sont ne plus que des prétextes pour une prise de conscience sociale. On ne sait pas trop à quoi ça mène, ou c'est un pur militantisme politique, quoi. Mais on a perdu ce qui fait l'essence de la pièce de théâtre, qui est au fond de narrer une histoire cohérente, de manière belle, dans l'espace d'une soirée, quoi, en quelques demi-heures. Mais ça, c'est perdu. Cette unité-là est perdue, et par conséquent, la beauté se perd avec. Forcément, ça devient déstructuré au possible. Et même l'intérêt de l'histoire va se perdre, parce que les histoires ne sont même plus cohérentes, finalement. Ça n'a ni qu'une tête. Vous voyez, la cantatrice chauve. Moi, quand je vois la fille qui est en train de poignarder son maître de musique, je suis horrifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi donc? Au théâtre, en plus, enfin, il ne faut pas choquer le public, hein, théoriquement. Hein, mais là, on n'hésite plus, on y va. Il faut choquer le bourgeois à tout prix. Hein. Picasso a raison, même au théâtre. Ce qui est quand même étrange. Hein. On ne va pas au théâtre pour être choqué, a priori. C'est bizarre.
Autre élément qui vous paraît là pour le coup ravagé par l'art moderne, c'est la question de l'architecture. Pourquoi l'architecture met-elle, écrivez-vous donc, un point d'honneur à construire des bâtiments d'une telle laideur?
Ah, je sais que cette phrase va m'être reprochée, hein, parce qu'elle est quand même violente, mais c'est la violence que je ressens quand je vois, hein, c'est tout. Hein. Je la ressens intérieurement, cette violence. Hein. J'ai les yeux blessés, littéralement, par ce que je vois. Moi, je fréquente plutôt la ville de Nancy, hein, et à Nancy, il y a de quoi dire. C'est même l'école d'architecture, hein, c'est une espèce de tiroir de béton absolument ignoble. Et je me demande comment on peut trouver ça, intéressant. Enfin, même les blocos remplis de moisissures sont plus beaux que ça, et plus intéressants. C'est l'école d'architecture, c'est quand même dingue, c'est censé être le modèle. Mais c'est ça, voilà, c'est du béton pur, aligné sur des grandes rangées, en forme de tiroir-caisse, et qui n'a aucune espèce de signification autre que de m'écraser le regard, de s'imposer à moi par une violence inouïe, et qui chercherait presque à me mettre en dessous pour faire de moi une espèce de crêpe, quoi, hein. C'est tout. Et donc, le seul réflexe humain que je peux encore avoir face à ces masses monstrueuses, bah, c'est de les taguer, ou alors de les dynamiter, enfin, je sais pas, moi, on peut pas se laisser faire. Et là, il y a un gros problème, hein, parce que c'est notre environnement culturel qui importe ici. Comment les gens qui vivent en permanence avec ça devant les yeux peuvent-ils encore chercher le beau et même s'intéresser au beau, puisqu'ils ne voient que ces masses mortes, complètement mortes et surtout lourdes, très lourdes. On s'ingénie à faire des choses massives, et comme c'est massif, et ben, c'est pas fin, hein. C'est pas fin, ça n'imite pas la nature, ça n'imite pas la finesse des formes naturelles, et par conséquent, ça m'agresse. je suis agressé par l'architecture moderne. C'est tout. Enfin, alors ça, c'est du sentiment pur et simple. Mais je peux le justifier philosophiquement, attention. Hein. Il ne s'agit pas de se cantonner à la sensation. Hein. Philosophiquement, c'est très simple. Hein. On a remplacé le réel par l'espace géométrique de Descartes. Tout simplement, on a mathématisé l'espace, hein, on a fait l'espace de Newton, et puis on se réfugie là-dedans pour faire des formes géométriques. Comme si ces formes géométriques suffisaient à être belles par elles-mêmes. Moi, j'aime bien le cercle, hein, c'est beau un cercle, mais attention, ça ne suffit pas pour que ce soit beau. La beauté formelle ne suffit pas, il faut aussi les couleurs, notamment les couleurs. Il faut aussi de l'ornementation dans l'architecture, sinon, bah, ce n'est pas attrayant. C'est lourd, c'est lourdingue, c'est d'une lourdeur totale. Et c'est
il y a beaucoup d'analyses qui montrent, même dans le temps récent, combien la couleur a disparu de l'espace. Dans les vêtements, par rapport aux années 50 ou 60, la couleur va disparaissant. Alors qu'on pourrait s'imaginer avec exactement l'inverse, mais pas du tout. Alors, aucun art n'échappe à l'art moderne, la danse aussi. Et là, pour la danse, vous êtes dans un cas presque chimiquement pur d'arrêt de l'imitation des classiques et de l'académisme dans la mutation de la danse classique vers la danse libre.
Oui, tout à fait. Bon, c'est trois Américaines hein, qui vont contester les règles de l'art classique, elles toutes seules, dans la danse. Donc, c'est Louis Fuller, Isadora Duncan, qui est quand même la plus connue, hein, et Russe Saint-Denis. Donc, ces trois Américaines, de leur propre mouvement, leur propre volonté, vont dire, au fond, que les règles de l'art classique ne suffisent pas, ou ne sont même pas aptes à dire ou faire du beau dans le ballet, dans la danse. Comme si les figures de danse classique n'étaient pas belles. Ou du moins, ça ne peut pas exprimer suffisamment ce que ressent. Il faut ressentir la danse, donc pour elle, il faut libérer la danse de ce carcan de règles. Voilà, donc il faut une danse libre. Et une danse libre, ça veut dire une danse anarchique, anomique, sans règles. Alors, Isadora dit qu'elle ne sait pas danser, mais elle danse quand même. Et elle fait des figures libres. Hein, des figures libres. Alors, ça peut être beau, bien sûr, hein, ça peut être beau. Mais sans le soutien des règles classiques, on ne va pas aller bien loin. Malheureusement, j'en ai bien peur. Alors, tout le XXe siècle en danse, c'est ça, c'est la libération de la danse classique. C'est-à-dire, on va s'en défaire, on va inventer toutes sortes de...
Nous avons un nouveau petit blocage. Nous nous retrouvons...
Et on se retrouve avec la danse queer, hein, la danse déconstructiviste, la danse non-genrée qui sévit aujourd'hui. Voilà, donc, c'est une danse qui, pour le coup, ne cherche même plus à genrer les danseurs et qui va essayer uniquement d'exprimer une corporéité à genre, non-binaire. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais je ne suis pas sûr que ça donne du bon, en tout cas. C'est une danse militante, tout simplement. C'est une danse qui s'est phagocytée à la politique, qui s'est subordonnée totalement à des visées politiques, c'est tout. Qu'est-ce qui reste d'art là-dedans? Je ne sais pas.
On pourrait vous répondre, Adrien Charles, que là, ce sont des arts qui avaient de quoi se révolter contre leurs prédécesseurs, contre les classiques. Il y a un art qui avait peu de prédécesseurs et peu de classiques face auxquels se révolter, c'est le cinéma, c'est ce qui apparaît au moment où l'art moderne apparaît. Et là, pour vous, c'est comme s'il avait suivi le rythme en se rebellant contre lui-même dès sa naissance, finalement, si je résume à peu près le...
Quelque part, oui. Il n'a pas jamais eu vocation à être vraiment classique, quelque part, puisque c'est le fruit de la photographie. Et la photographie, c'est déjà moderne. Donc, il n'a pas eu affaire de révolution particulièrement, en fait. Hein. Il a suivi le mouvement des autres arts. Et donc, on a suivi la logique. Donc, il est déjà, quelque part, révolutionnaire depuis le départ. Ses sources, elles, évidemment, on peut les trouver dans la psychanalyse, dans l'hypnose, dans le fait de s'amuser de ce qui change, du mouvement pur, une espèce de culte du mouvement pur. Et puis aussi le fait qu'il soit très travaillé, hein, le fait qu'il soit très artificiel. La post-production est presque plus importante que la production elle-même. Mais on voit bien qu'il a suivi le mouvement de pente, de descente des autres arts progressivement, quoi. Donc il y a des livres là-dessus, hein, il y a beaucoup de livres là-dessus qui montrent bien le décrochage, c'est-à-dire depuis les années 46 jusqu'à aujourd'hui, le cinéma ne donne plus d'autre message que celui qu'il faut croire en politique, hein, c'est-à-dire un message universaliste, libertaire, tolérantiste, sans normes, où il n'y a plus de message autre que celui qu'il faut croire en politique. En gros, c'est ça. Donc un théâtre absurde aussi, théâtre de l'absurde aussi. Au cinéma a suivi le théâtre. Hein. L'absurdisme a eu beaucoup d'incidence, surtout après le surréalisme. Le surréalisme nous a appris à être dans la dérision permanente. Et le cinéma s'en est beaucoup imprégné de ça, la dérision. Le cinéma de la dérision. Alors soit c'est de la dérision, soit c'est de l'absurde, soit c'est du romantique encore, hein, bien sûr, hein, les comédies romantiques, tout ça. Mais au fond, le message est toujours le même, hein, c'est toujours une espèce de propagande qui se trouve derrière, et la ficelle est grosse en plus, hein, la ficelle est grosse. Aujourd'hui, c'est tellement gros que les spectateurs commencent à bouder les films un peu trop idéologiques, hein, ça se voit très bien. Hein. C'est pour ça que le cinéma français aujourd'hui est en quasi-faillite, hein, d'ailleurs, hein, faut pas se leurrer, hein, les spectateurs ne sont pas dupes de l'idéologie qui se trouve toujours immiscée dans le scénario.
C'est bien que si on constate tous ces arts, on voit bien, d'ailleurs c'est une analyse empirique, qu'ils sont envahis par la politique, plus exactement par l'aspect idéologique des choses, la prise de position idéologique sur les choses. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, de votre point de vue, tous les arts sont contaminés par cette instrumentalisation, cette mise au service, presque cette mise au pas par le politique?
Ah, tous. Peut-être la bande dessinée. Figurez-vous, peut-être que la bande dessinée, elle aussi est moderne, hein, mais peut-être on peut un peu moins subir cette influence que les autres. Parce que on est très attaché quand même à des règles de production qui sont assez constantes. Et puis, il y a toujours un souci du scénario, de la trame cohérente, qui fait qu'il n'y a pas... Et après, il y a le contenu. Hein. Il y a le contenu idéologique qui est sûrement encore présent, hein, et même assez présent. Mais au niveau de la forme et de la façon de faire, finalement, c'est assez permanent, je trouve. Pour la photographie, peut-être aussi un peu. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé dans mon livre de ces deux arts-là. Ne sont pas un peu moins sujets que les autres à l'influence de la révolution moderne, un peu moins.
Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont comme une limite technique, c'est très intéressant, oui. Parce que sur la bande dessinée, on ne peut pas tellement changer la manière de faire, et pour la photographie, évidemment, il y a des mutations technologiques, mais à la fin, ça reste un jeu de lumière.
Évidemment, oui, évidemment.
Nous allons entamer maintenant la partie qui concerne l'art contemporain. Alors, c'était souvent traité sur Radio Courtoisie, mais essayons d'y voir plus clair. D'abord, pour vous, l'expression même d'art contemporain semble à interroger.
Ah oui, eux-mêmes cherchent une bonne définition. Hein. C'est vous dire à quel point on est mal barré. par exemple, j'en ai trouvé une ici de Pierre Naon, qui n'est pas n'importe qui est un ancien directeur du musée Beaubourg, qui définit l'art contemporain comme étant... le regard porté sur un objet. L'art contemporain, c'est la façon de regarder un objet. Oui. Et à quel point c'est clair, précis, net. C'est une production accompagnée de raison. Hein. C'est pas du... Quand je regarde un couteau, je vois pas ça comme une œuvre d'art, a priori. Mais eux s'imaginent qu'on peut prétendre le trouver artistique. Oui.
La place, vous interrogez aussi la place du scandale, on l'a dit, mais de manière encore plus massive, de l'exposition dans la place qu'a la diffusion de l'art contemporain. Vous parlez d'ailleurs de trois expositions importantes, une de 52, une de 55, une de 58-59. Finalement, ces grands messes ont eu une place considérable dans l'histoire même de l'art contemporain.
Oui, parce que le public a été ébranlé, le public a été... en quelque sorte déboussolé par ses œuvres, et comme à l'époque l'Amérique avait la prétention de subordonner tous les autres arts européens, elle a cherché à assurer sa suprématie en matière culturelle. Donc c'est comme ça que le public européen a été en quelque sorte conquis par cet art. Alors c'était du post-expressionnisme, hein, du tachisme essentiellement, hein, avec Rothko, des gens comme ça. Et puis il a été conquis, c'est là que s'est formée une espèce d'élite culturelle favorable à l'art contemporain. Donc, c'est là que ça a pris forme, hein, parce que Duchamp, lui tout seul, en 1917, il a convaincu personne, hein, personne n'a suivi. Donc c'était une espèce de précurseur d'art conceptuel, mais il n'a pas été suivi par le grand public. C'est à partir de l'après-guerre que ça a commencé, vraiment. Et c'est là maintenant qu'on assiste à ce sont des milliardaires qui maintenant investissent dans l'art contemporain au nom de leurs femmes, voilà, qui comme ça permettent de cumuler leur fortune en l'investissant dans ce genre de pratiques. Mais l'élite n'était pas convaincue avant les années 46-47, oui.
Vous notez par ailleurs que l'art contemporain refuse la critique. Vous dites ainsi, en règle générale, les défenseurs de l'art contemporain comme Bourriaud accusent leurs contempteurs de tout simplement pas connaître leur sujet.
Alors oui, j'ai remarqué une chose. Je suis certes dogmatique, mais je suis quand même ouvert. Et je peux apprécier des choses qui ne sont pas classiques. Et je suis tout à fait ouvert à l'idée qu'il y en a qui aiment l'art moderne et contemporain. C'est aucun problème avec ça. Je peux même comprendre qu'on puisse critiquer l'art classique jusqu'à un certain point. Oui, je suis assez ouvert, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'inverse, ils font pas du tout la même chose. Eux disent que celui qui défend l'art classique aujourd'hui, je lis ça dans le texte de M. Pierre Naon, il a de l'outrance, du stéréotype, il a des préjugés, il est farci de clichés, il résiste. C'est insupportable, il faut absolument abolir cette résistance. Donc bref, moi je suis ouvert, c'est eux qui sont fermés. Hein. C'est ça que je constate. Hein. Vous n'êtes pas favorable à l'art contemporain, donc il faut vous faire taire. En gros, c'est ça. Donc c'est pas juste, je suis désolé, c'est pas juste.
Par ailleurs, vous notez le cas d'un critique d'art, Soutif, que j'ignore complètement l'existence, qui dit « Il est même insensé d'attaquer l'art contemporain, car d'une part il n'existerait même pas et n'aurait donc aucune essence. » Que peut-on dire de cette partie-là ?
Ah, il est assez habile, Daniel Soutif, il est assez habile puisqu'il dit « Il n'y a rien à critiquer puisque l'art contemporain n'existe pas, puisque tout est contemporain aujourd'hui. » Donc même ceux qui feraient encore de l'art classique seraient contemporains. Donc en fond, il n'y a pas d'objet, donc circuler, il n'y a rien à critiquer. Bah, très bien, magnifique, mais s'il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à défendre non plus. Et c'est là que je rebondis en leur disant bah, « Ne défendez pas l'art contemporain puisqu'il n'existe pas. » Donc c'est pas la peine de le défendre. Donc arrêtez vous-même de le défendre. Voilà comment je rebondis, mais voilà, ils sont assez habiles au niveau de la rhétorique, il n'y a pas de problème, ils arrivent toujours à trouver, à défendre leur bout de gras. Mais ce que je remarque, c'est que moi je ne suis pas assassin de l'art classique, c'est eux les assassins de l'art classique, c'est pas moi. Eux, ils ont quelque chose à se reprocher à ce niveau-là. Moi, je les subis en attendant. C'est tout.
Nous allons procéder, grâce au bon soin de Benoît, à notre ultime pause musicale. Nous allons continuer à disséquer l'art contemporain et puis essayer de voir ce que nous pouvons faire de toutes ces analyses en conclusion, en parlant avec Adrien Charles de son livre « La révolution esthétique moderne » aux éditions Ora Decima. Thank you. Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Adrien Charles. Nous parlons de son ouvrage « La révolution esthétique moderne » aux éditions Aura Decima. Alors, il y a un élément difficile quand on parle de l'art contemporain, Adrien Charles. Et vous citez d'ailleurs une expression d'Adorno, toujours lui, dans cet ouvrage, qui parle de l'énergie antitraditionnaliste qui devient un tourbillon vorace. Alors, cette voracité, elle donne aussi, on va le voir, vous vous y tentez, mais il faut bien dire qu'au préalable, il y a une espèce de fouillis général dans ce que tentent d'exprimer les écoles, les manières de faire de cet art contemporain. Est-ce que vous pouvez convenir aux ex-définition qu'il y a une difficulté à trouver des critères communs?
Ah, évidemment, Daniel Soutif a en partie raison, on a du mal à s'y retrouver, tellement ça part dans tous les sens, évidemment, puisqu'il n'y a pas de règles, donc chacun essaie de créer de nouvelles choses sans règles. Donc je pense par exemple à la banane scotchée là, de Catlan, qui a été vendue 6,2 millions de dollars à New York, pour que son client la mange ensuite dans un hôtel à Hong Kong. Comment trouver une règle là-dedans? C'est assez difficile. Hein. En apparence, c'est le chaos intégral. Chacun fait n'importe quoi. Et pourtant, puisque ce n'est pas de l'art classique, il faut bien quand même qu'il y ait des points communs entre tout cela. Alors, ils ne sont pas forcément visibles dans les œuvres, mais au moins dans les intentions de ceux qui les font. Et j'ai essayé de trouver des points communs comme ça, j'en ai trouvé 5 ou 6 qui permettent de trouver une espèce d'essence. Hein. Non, néanmoins, une essence négative, évidemment, mais quand même une essence. Alors, c'est vrai que certains disent que cet art a renoncé à critiquer l'art classique depuis les années 80. Oui, Nicolas Bourriaud dit ça, par exemple. Mais je ne suis pas persuadé non plus. Hein. Quand on voit les œuvres qui se font aujourd'hui, à mon avis, elles sont toujours aussi militantes et foncièrement anti-classiques. Donc, je n'ai pas vu précisément cet apaisement. Je ne l'ai pas vu. Donc, je maintiens qu'il y a quand même des points communs qui sont tous contre l'art classique, tant au niveau du matériau que du niveau de la forme, que du niveau de la durabilité des œuvres, que du niveau de leur non-reproductibilité, du niveau de leur beauté, évidemment. Il faut se défaire du beau, du laid, etc. Il faut dépasser tous ces vieux poncifs. Hein. Et tout ça est commun à tous ces gens-là. Il faut faire quelque chose d'autre qui n'a jamais été fait avant et qui est foncièrement subversif, révolutionnaire par rapport à ce qui précède. Donc, à force d'échapper comme ça à toute détermination, on finit par être déterminé, oui, c'est sûr. Ça finit par devenir une essence.
Pour rappeler cette hostilité foncière à la notion de beau, deux citations, hein, je pense que c'est important que les auditeurs en aient conscience. Buren, donc, chacun connaît les superbes colonnes. Le concept de beauté n'est ni le centre ni le but de mon travail. Et André Breton, au moins c'est plus beau, dit « Voici longtemps que l'idée de beauté, c'est raciste. »
Voilà, bah, rien à ajouter, hein, c'est clair. On voit bien que ce n'est pas leur priorité. Hein. Et c'est pas leur but.
Il y a souvent un élément qui revient dans la critique, pas forcément aussi profonde que la vôtre, j'allais dire, Adrien Charles, c'est ce rejet de la technique. Vous voyez, c'est l'argument du « on dirait mon fils quand il fait son dessin », etc. Est-ce que c'est intellectuellement fondé comme critique? Est-ce que cette réaction un peu spontanée a une dimension de vérité? Qu'est-ce qu'on peut en dire au regard de ce que l'art contemporain dit lui-même? Puisque, comme on l'a dit, ce livre est loyal et vous êtes allé vous-même voir les œuvres et avec les textes qui le défendent.
Alors, il ne nous présente pas des choses qui sont sans technique. Il y a des techniques de production, évidemment, et chaque artiste est même assez fier, je trouve, de présenter ses façons de procéder. Mais je remarque quelque chose quand même, bon, ça n'a rien à voir avec l'atelier de l'artiste classique, évidemment, hein. On est plutôt dans l'industrie, là. Leur modèle, leur paradigme commun, c'est plutôt l'industrie que l'atelier de l'artiste. Et ça, c'est un fait notable. Ils sont dans un âge industriel, donc il faut absolument imiter ça comme un exemple qui serait le propre de l'artiste. Il faut qu'on soit rien de motif militant derrière. Hein. Il faut qu'on soit solidaire des ouvriers, donc il faut ressembler à l'ouvrier. Alors que jadis, Léonard de Vinci avait justement séparé l'ouvrier de l'artiste, en disant que l'artiste était supérieur par ses capacités. Au contraire, maintenant, il s'agit de ressembler le plus possible à l'ouvrier et de moins marquer de différence possible entre les deux. Par solidarité de classe, j'imagine, un truc comme ça. Hein. Mais voilà, donc il y a des règles, bien sûr, mais elles ne sont pas classiques, évidemment. Et puis ce sont des règles plutôt industrielles qu'artistiques, on va dire ça comme ça. Il ne s'agit plus de vernis, ou il ne s'agit plus de mettre de la couleur sur une toile, hein, c'est autre chose. Hein. On va couler de l'acier, on va construire du béton, des choses comme ça. Oui, c'est plutôt industriel, en fait, c'est des règles industrielles. Donc elles existent, ces règles, bien sûr, mais elles ne sont plus celles d'un artiste classique. Et à mon avis, ça suffit à montrer que c'est opposé, tout simplement.
Autre réflexion, vous l'avez dit souvent, la place de la finance et des financiers dans l'art contemporain. Là, on pourrait vous répondre que les mécènes et les jeux pour séduire les mécènes ont aussi été le tribut de l'art classique. Le lien entre l'argent et l'art ne date pas de l'art contemporain ou moderne.
Bien sûr, l'argent a toujours eu. C'est très important en matière d'art et personne ne le nie, hein. Bien sûr. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, cet argent est devenu non seulement un mobile, mais aussi un but. Et c'est là la différence, hein. Le moyen et le but deviennent les mêmes. L'art n'est plus qu'une médiation entre l'argent et l'argent. C'est une espèce de mauvaise crématistique, comme dirait Aristote, hein. C'est-à-dire qu'on achète des œuvres d'art avec de l'argent pour ensuite faire de l'argent avec. Donc, c'était peut-être pas le but de départ de l'art, je pense. Les banquiers florentins construisaient des églises et des cathédrales avec l'argent qu'ils gagnaient, hein. Il ne s'agissait pas de vendre les églises après pour gagner plus d'argent avec. Oui, c'était pas pareil. C'est pas évident. Pas tout à fait exactement pareil. Mais oui, c'est ça.
Dans le constat que vous faites de l'opposition à l'art classique, il y a aussi une réalité, toute pratique. Vous écrivez ainsi que l'on se figure bien que dans l'esprit des directeurs d'exposition, des organisateurs de foires, oser produire du figuratif est une injure et le motif est toujours le même. Cela ne va pas dans le sens de l'histoire.
Ah oui, on retrouve la dialectique là, la dialectique de Hegel. Le sens de l'histoire, c'est la révolution, c'est l'abolition du passé. Donc si vous voulez revenir au passé, vous êtes dans les poubelles de l'histoire. On revient à cette même logique, ils en sont farcis, ils en sont pétris, ils ne jurent que par ça. Donc vous ne pouvez pas, et c'est là qu'on voit leur tolérance, entre parenthèses, hein, leur grande tolérance voltairienne, hein, manifestement, vous ne pensez pas comme eux, dehors, hein, c'est ça. Puis vous ne pouvez pas faire carrière, évidemment, hein, puisque vous n'avez pas accès aux galeries. Donc c'est là qu'on voit l'imposture radicale de ces gens qui prétendent être ouverts, tolérants, magnifiquement ouverts à toute perspective, et puis qui en fait en réalité ne favorisent qu'une seule façon de faire, la leur, et qui calomnient les autres jusqu'à les faire taire et jusqu'à empêcher de faire carrière. Imaginez si Mozart voulait faire sa musique aujourd'hui, imaginez un peu si ce serait accepté. Imaginons que ce soit le cas. Je ne pense pas qu'il aurait une grande carrière aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas sûr. Il serait refusé de partout en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est pas actuel, c'est pas présent, ça n'a aucun intérêt. » Et puis surtout, même si c'est beau, on n'en a rien à faire. L'important, c'est que ça fasse du fric. C'est tout. Et je ne pense pas qu'il réussirait dans ces conditions. Hein. Je ne pense pas. Vu le caractère obtus des directeurs d'exposition, etc., ainsi de suite, ce serait très difficile, très difficile.
Plusieurs questions pour en venir à la conclusion de cet ouvrage, Adrien Charles. D'abord, en vous citant, quand donc le public osera-t-il rompre avec son apathie chronique et se défier enfin de tous ces maîtres du refus ? Qui osera troubler leurs erreurs ?
Oui, ça c'est mon vœu personnel, évidemment, hein, mais on aurait peut-être aimé que le public soit un peu moins amorphe et un peu moins disposé à accepter des choses qui se moquent d'eux, finalement, des choses qui ne les respectent pas, des choses qui n'ont pas de consistance, des choses qui sont seulement ludiques, donc pas sérieuses. Ces gens-là se figurent que l'art n'est pas sérieux, qu'il faut avoir de l'esprit de dérision pour y accéder. Moi, j'aime bien m'amuser, hein, j'aime bien la dérision, mais au bout d'un certain temps, moi, j'ai aussi de la consistance, voyez, donc j'attends qu'un jour on se réveille enfin en disant « Maintenant, ça suffit, on en a marre de jouer, de s'amuser, rendez-nous le beau que vous nous avez confisqué. » C'est ça la revendication que je vais faire à la fin, c'est « Rendez-nous le beau que vous nous avez confisqué. Vous l'avez confisqué, rendez-le-nous. » Et surtout, laissez-nous libres de le révéler à notre tour comme quelque chose d'à nouveau sacré, d'à nouveau sérieux et qui mérite qu'on puisse le contempler. Rendez-nous cette liberté, parce que quelque part, c'est eux qui sont devenus nos geôliers, c'est eux qui gardent nos prisons maintenant, c'est eux le fil de fer barbelé, c'est eux les chantres de la liberté qui nous emprisonnent. Donc maintenant, c'est bon, on va appliquer la dialectique à eux. Il faut dépasser le dépassement. Il faut dépasser l'antithèse, dépasser la synthèse, et se révolter contre les révoltés. Faire la révolution contre les révoltés, et ainsi de suite. Quelque part, on peut encore croire que la dialectique puisse fonctionner. Hein. Ils n'ont pas le dernier mot de l'histoire, hein. Et à partir de là, on aimerait bien qu'on puisse faire quelque chose de plus consistant à l'avenir. Parce que qu'est-ce qui va rester de tout ça dans 3 siècles, hein ? Je suis pas sûr qu'il en reste grand-chose, sinon de l'esbroufe, sinon de la rigolade. Mais qu'est-ce qui va vraiment être consistant ? Vous voyez, dans tout repas, il y a un plat de résistance. Hein. Et je suis pas sûr qu'on puisse le trouver dans ces musées-là, ou dans ces expositions-là, ou dans ces esprits-là. Pour eux, c'est le temps qui passe qui importe le plus, mais l'avenir n'importe pas beaucoup, finalement.
Donc vous ne croyez pas à la sorte de prédiction d'Adorno, qui a tendance à voir les prophètes, qui dit que toute tentative de renaissance d'un genre classique serait par essence vouée à l'échec.
Bah, si on suit cette logique hegelienne, non, pas forcément. On peut tout à fait dépasser le dépassement. Et la synthèse n'est jamais ultime. Donc on peut toujours imaginer que la synthèse devienne à son tour une antithèse à dépasser. Donc pourquoi s'arrêter là? Pourquoi arrêter l'histoire à ce niveau-là? Il n'y a pas de raison. Donc on peut tout à fait imaginer dépasser cette espèce d'état qui n'est pas définitif, après tout, qui est transitoire. Et donc on attend une renaissance. Tous les siècles attendent leur renaissance. Pourquoi pas en attendre une autre? Pourquoi ce serait interdit? Et je suis sûr que le plus grand public serait tout à fait ouvert à l'idée d'une renaissance artistique. Pourquoi pas? Et enfin, un truc sérieux, quoi. Pas un truc qui ne dure que 3 mois ou 4 mois, comme tous les courants contemporains qu'on a pu voir avant. Enfin, quelque chose qui tienne la route et qui mérite d'être inscrit dans les livres ensuite. Je pense que l'histoire de l'art n'est pas terminée et qu'il y a encore quelque chose à écrire. Mais encore faut-il qu'on nous en laisse la liberté, tout simplement, et qu'on ne soit pas claquer du bec et qu'on ne nous prête pas des intentions malsaines ou ignobles, qu'on ne nous diabolise pas comme des parias à chaque fois qu'on cherche à ouvrir la bouche. Hein, c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui c'est eux qui ont le pouvoir et qui tiennent les rênes. À partir de là, la Renaissance se fera forcément contre eux, et comme eux l'ont fait avant eux, hein, comme on l'a fait avant, tout pareil.
Il y a un paradoxe tout de même, parce qu'on voit que l'art contemporain, dans la majorité du public, hein, a fini par générer la raillerie contre lui, d'une manière très classique, de dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» On ne peut pas dire qu'il reçoit une adhésion du cœur et collective massive et majeure de l'art contemporain. En même temps, cela ne sécrète pas de révolte. Comment l'expliquer?
Ah ben c'est une espèce de... Le public est amorphe, il est spectateur, on est dans l'ère de l'image, on attend que l'image vienne à nous. Après, on réagit plus ou moins mollement, hein, mais c'est ça, on est tellement habitué à se laisser faire qu'on n'a plus de réaction vive, hein. On n'est plus autant de Manet où on cherche à lacérer l'étoile aujourd'hui. Hein. Qui penserait à jeter de l'huile sur les œuvres contemporaines, comme on l'a... de les jeter de la purée sur les œuvres contemporaines, comme on l'a fait sur la Joconde ou sur le cri de Munch ou je ne sais quoi, pour revendiquer les motifs écologiques. On n'y pense pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir des ennuis avec la police, on n'a pas envie de passer pour un contestataire aigri et réactionnaire, on n'a pas envie de passer pour... La réputation fait tout aujourd'hui, hein, vous savez bien, et donc ça rend amorphe, ça rend passif. Et puis on est tolérant aujourd'hui, on a un tolérantisme tel qu'on est prêt à tout gober sans réagir. Hein. On est prêt à accepter l'inacceptable. Hein. Et donc là, ça explique le fait qu'on ne réagisse pas trop.
Ultime question, Adrien Charles, pour les auditeurs qui nous écoutent. Que faire pour ceux de nos auditeurs qui ont envie de mener cette charge, mais qui ne s'en trouvent pas forcément ni les moyens, ni l'espace, ni les méthodes?
Ah ben aujourd'hui, vous savez, c'est le nombre qui fait la force, hein, donc on ne peut pas faire ça tout seul, je ne pense pas. Hein. C'est pas avec un avis qu'on va changer les choses, hein, évidemment. Aujourd'hui, tout passe par le nombre. C'est le nombre qui compte. Donc, il faut se solidariser, se fédérer, trouver un moyen de faire un truc collectif pour réagir collectivement. Au moins, on ne pourra pas se faire accuser personnellement d'eux. On aura moins de charges à supporter seul. Il faut que cette charge soit supportée par plusieurs ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on tient la route, on tient la force. Et puis, il faut un projet cohérent aussi. Hein. On ne peut pas non plus... qu'est-ce qu'on veut ressusciter finalement? Est-ce qu'il y a un truc à ressusciter de l'art classique? Est-ce qu'on y aspire vraiment? Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel type d'art classique on va adopter? Et qu'est-ce qui peut plaire? Mais pour ça, il faut évidemment éduquer les gens à l'art classique et se sensibiliser au beau classique, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. Donc avant tout, bah, y a un problème d'éducation, un problème d'enseignement. Qui aujourd'hui va encore se déplacer dans les musées voir les œuvres. Les jeunes se déplacent de moins en moins dans les musées, c'est un fait. Hein. Ils ne savent même plus les déchiffrer, les décrypter, ils n'ont plus le sens historique qui permet de les décrypter. Je vois bien, je fais passer à mes élèves des oraux sur des tableaux, hein. ils n'arrivent pas à en dire grand-chose, hein. Ils n'arrivent pas à en dire grand-chose, sinon ce que je leur dis de dire. Mais donc, tout seul, je ne suis pas sûr qu'ils feraient cette démarche. Hein. Donc il y a tout un aspect enseignement, mais vous savez bien que l'enseignement est tenu aujourd'hui par des gens qui ne sont pas favorables à l'art classique. Le documentaliste de mon propre lycée trouve hideuses les toiles classiques qui s'y trouvaient encore et qu'il a bien pris soin de démonter pour les remplacer par des télévisions. Donc, tout ça est significatif. Hein. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'on soit plus fort. Donc, plus
nombreux. Nous devons nous quitter. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. Un grand merci, Adrien Charles. La révolution esthétique moderne, c'est chez Aura Decima. Je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant cette émission.
Merci beaucoup.
Quant à moi, mes auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre au Journal des Débats.
D'entendre le Libre Journal des Débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 12 février 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 25 février de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.